mélodie souterraine. L'émission de la médiathèque Maurice Genevoix sur Studio Zef avec Jérôme et Thomas.
Laisse tourner le vinyle.
Ce mois-ci, dans Mélodie Souterraine, eh bien, on va parler des rendez-vous de l'histoire, puisque Jérôme, salut.
Salut.
On a un invité qui sera présent, du coup, pendant ces rendez-vous de l'histoire.
Complètement. Et nous avons grand plaisir d'accueillir à l'antenne pour ce jour, cet enregistrement, Jacques Ferrandez. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Voilà, donc je vous présente plutôt brièvement, mais de toute façon, nous allons avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement au sein de la médiathèque pour vous rencontrer avec nos publics, pour parler, évoquer votre parcours artistique. Et aujourd'hui, on vous connaît surtout en tant qu'auteur et illustrateur de bande dessinée, et notamment à travers la série, ou la saga même, qu'on peut dire...
Les Carnets d'Orient.
Voilà, qui se nomme Les Carnets d'Orient. Et on vous sait aussi, évidemment, très intéressé par les relations existantes entre la France et l'Algérie. Donc ça transparaîtra peut-être à un moment donné au travers de vos choix musicaux, mais pas que.
C'est possible.
Oui, c'est possible, mais... Voilà. Et en même temps, je sais que vous êtes un amateur éclairé de ce qu'on peut nommer le jazz, et vous-même, vous pratiquez d'un instrument.
Oui, à mes heures, je suis contrebassiste, ce n'est pas l'instrument le plus facile à transporter, mais c'est l'instrument que j'ai choisi.
Oui. Ben, je connais l'affaire, parce que mon père également pratique cet instrument, et je sais que ça a souvent incommodé dans quelques voyages.
Voilà. Ça prend de la place.
Oui.
On va donc parler d'histoire avec vous lors de votre venue au rendez-vous de l'histoire. Donc, ce sera samedi 11 octobre, rendez-vous à la médiathèque Maurice Genevoix.
Le jour, oui.
Oui, tout à fait. Mais donc, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, on va, comme le disait Jérôme, parler musique avec, d'habitude, notamment quand Jérôme reçoit un invité dans cette émission, l'invité a proposé une sélection de disques, une sélection subjective. C'est ce qu'on attend de nos invités, qu'ils nous transmettent leur passion pour des genres ou des artistes. On aura l'occasion de parler de votre travail de BD, même si il y a évidemment, je pense, des ponts qui vont peut-être se faire dans la conversation et dans la discographie qu'on va proposer. Mais aujourd'hui, effectivement, on va plutôt vous questionner sur vos choix musicaux et interroger la sélection que vous avez donnée à Jérôme.
Donc, comme plus ou moins déjà mentionné, mais c'est vrai que cette émission aura une coloration peut-être plus jazzy. Et du coup, on va évoquer en effet des artistes de grande renommée, enfin des grandes figures, des immensités même, qui ont écrit les plus belles pages de ces univers, et qui d'ailleurs toujours exercent une influence majeure même sur les nouvelles générations. Et sans plus tarder, on débute avec. Alors, premier choix, il s'agit. J'allais dire évidemment oui, on ne peut pas l'éviter, mais Miles Davis. Vous avez choisi un extrait de son album peut-être le plus connu dans le monde entier, et je pense que c'est même une référence, Kind of Blue.
Voilà. Je crois que l'album le plus vendu dans le genre jazz.
Ouais, après, ouais.
Et puis depuis longtemps, l'album est sorti en 58 ou en 59, et ça ne s'est jamais démenti. Donc oui, en effet, c'est un classique, quoi, on peut dire.
Ouais, carrément. Mmh. Que des, comme on dit, qui regorgent de standards.
Alors, c'est des standards qui ont été créés à ce moment-là. Parce
oui, bien sûr.
Ce sont des compositions qui ont été créées par Miles Davis et par Bill Evans aussi à l'occasion de cet enregistrement. Et ce sont devenus évidemment de véritables standards repris des millions de fois par les plus grands musiciens aussi. Oui, voilà, il faut bien s'appuyer sur des références. En voici une.
Je propose qu'on écoute l'extrait choisi. Et le titre en question,
il s'agit c'est de... Flamenco Sketches.
Oui, c'est ça.
Mmh.
On vient donc d'écouter Flamenco Sketches.
J'ai choisi particulièrement ce morceau parce qu'évidemment tous les morceaux de ce disque sont devenus des standards, mais particulièrement celui-là, on voit bien que Miles avait des oreilles très grandes ouvertes sur tout type de musique. Et là, il y a cette influence espagnole, flamenco, donc on retrouve ensuite dans Sketches of Spain qu'il a fait avec Gil Evans, avec un big band. Mais ça, moi, évidemment, ça me parle parce que ça me renvoie aussi à mes origines espagnoles. Hein. Mon nom Ferrandez, ça vient de là, ça vient d'Espagne. Et même si c'est des Espagnols qui sont passés par l'Algérie, on en reparlera. Mais tout ça, évidemment, c'est une manière de conjuguer toutes ces influences et toutes ces inspirations.
Comment, Jacques, vous êtes venu au jazz? Comment il est arrivé à vous?
Oh ben, vous savez, c'est une longue histoire. Mon père était médecin, mais il était aussi musicien. Il jouait du violon, d'ailleurs. Il m'avait mis au violon quand j'étais petit. C'était pas mon instrument de prédilection, parce que, comme vous pouvez savoir, le violon, c'est un instrument extrêmement ingrat. Il faut beaucoup travailler pour sortir un son qui soit correct. Et mon problème, c'est que je travaillais pas assez, mais j'avais de l'oreille. Alors, j'ai essayé de donner le change un petit peu. Et puis, j'ai abandonné le violon au bout de quelques années. Et peut-être la croissance aidant, je me suis mis à la contrebasse parce que, à la maison, on écoutait, mon père était vraiment un fan de musique, il écoutait un peu toutes les musiques, principalement du classique et du jazz, qu'il pratiquait lui aussi. Et ce qui fait que j'ai baigné un petit peu là-dedans. Et puis ensuite, quand j'étais ado, ben, j'ai découvert les Beatles, j'ai découvert la pop et tout ça. Mais tout ça est assez logique parce que ces musiques-là sont évidemment s'influencent les unes les autres. Et sur le plan du jazz, moi j'ai la chance à cette époque-là, j'habitais à Nice et à Nice il y a des gros festivals de jazz chaque été. Il y a Nice, il y a Jean Lépin, et donc j'allais comme ça aussi pouvoir aller écouter les concerts.
Il y avait un accès facilité à cette musique. Ouais, ok.
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, ça, c'est culturellement parlant, disons, ça faisait partie un peu de mon ADN dès le début, quoi. Et moi, en plus, j'avais un oncle, mais qui était fondu complet de jazz et qui connaissait personnellement les musiciens. Donc, parfois, les soirées après les concerts se terminaient à la maison. Et donc, il y avait un piano à la maison. Et j'ai vu comme ça quelques musiciens qui sont venus faire un peu le bœuf chez mes parents, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas arrivé très souvent, mais c'est quand même des grands souvenirs d'avoir des musiciens qu'on avait vus sur scène qui déboulaient à la maison dans les afters, quoi. Et puis, avec un peu de champagne, et ça se prolongeait assez tard. Donc moi, j'étais ado à ce moment-là, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui forge un peu une culture aussi.
Ah bah carrément, ouais, qui marque. Eh bien, on poursuit notre aventure musicale. Alors du coup, moi, à chaque fois, je vais plus ou moins interagir avec vos choix. Et là, du coup, j'ai opté pour un extrait, alors aussi issu du même album Kind of Blue, pour le thème So What.
Oui.
Sauf que, et ça ne sera pas la version originelle, il s'avère que Miles Davis, et notamment suite à sa période dite électrique au début des années 70, on a aujourd'hui, je trouve qu'on finit toujours pas de découvrir, même quand on réécoute les disques maintes et maintes fois, on est toujours surpris par autant d'innovations. Et c'est vrai que aussi, au fur et à mesure, Miles Davis influence toujours beaucoup, beaucoup de musiciens. Et notamment, il y a eu des parutions de disques où, en fait, la thématique, c'est Miles Davis, mais avec des teintes autres. Là, par exemple, pour le disque en question, le disque s'appelle Miles from India. Donc, en fait, c'est un disque qui reprend des thèmes de Miles Davis, mais avec des influences indiennes. Et on sent qu'en effet, de toute façon, lui-même avait les oreilles grandes ouvertes et pouvait aussi s'inspirer de musique bien plus lointaine. Et du coup, là, en l'occurrence, ça a été, c'est un album qui a été chapeauté par Bob Belden. Je ne sais pas si ça vous parle.
Pas trop.
Non,
mais
pas
allez-y.
Trop. En fait, c'était un arrangeur chef d'orchestre qui, lui, il aimait bien reprendre des répertoires et les mettre à la sauce. Un peu jazz, donc il a mené des projets autour de Prince, les Beatles, Puccini par exemple, et donc aussi Miles Davis qui faisait partie lui aussi de son ADN. Et donc là, je propose une version de So What avec des musiciens indiens et Ah, bah justement, on va retrouver. Il y avait cette même contrebasse qui était fort dominante. Sur
ah oui, qui est le riff de base de ce morceau.
Oui, complètement.
On écoute donc un extrait de l'album Miles from India. Donc, le morceau s'appelle So What. Thank you.
tena tom, taka de me taka de na taka de na tom, tom tom, tate takera taka tom tom, tate takera taka tom tom, tate takera taka tom.
Et pour vous, Jacques, il y a justement là l'extrait qu'on a écouté de So What, avec cette orchestration ficelée par Bob Belden. Il a aussi réalisé un volume qui s'appelle Maïs Espagnol.
Ah ben voilà.
Et qui s'appelle New Sketches of Spain. Du coup,
eh ben voilà, voilà, c'est la reprise de
toute l'influence, voilà, de toute son influence espagnole, en provenance d'Espagne en tout cas, se retrouve dans ce double album. Au gré de reprises assez incroyables.
Alors, je ne sais pas, parce que vous l'avez certainement dans votre médiathèque, mais j'ai fait il y a trois ans une biographie en bande dessinée de Miles Davis, qui avait déjà été publiée sous d'autres formes, avec livraison de CD, qui était dans une collection qui s'appelait BD Jazz ou BD Musique. Et ça a été repris il y a trois ans maintenant, avec un épisode supplémentaire pour clôturer la bio de Miles Davis, et avec justement le disque Kind of Blue, qui était livré dans un très beau format 30 cm. Donc la bande dessinée avait été remontée pour pouvoir être adaptée à ce format-là de 30 par 30, format carré. Et donc je suppose que vous l'avez dans la médiathèque.
Votre deuxième choix concerne deux pareils grands musiciens qui sont ni plus ni moins Keith Jarrett au piano et Charlie Haden à la contrebasse.
Des gens qu'on a déjà croisés dans Mélodie Souterraine, je pense, Jérôme. Non ?
Ouais, c'est possible.
Ouais, Charlie Haden, ça me dit quelque chose.
Oui, Charlie Haden, certainement. D'ailleurs, oui, ok. Jacques, à vous de la parole pour ce choix.
Oui, alors, ce choix
de duo.
Alors, Keith Jarrett, c'est un très grand pianiste du XXe siècle, et pas nécessairement uniquement dans le jazz, parce qu'il a aussi interprété les partitions de Bach. Mais en fait, ce morceau, moi c'est un disque qui m'a beaucoup touché, parce que c'est un disque qui est assez récent, qui remonte à quelques petites années seulement. Bon, Charlie Haden maintenant est décédé, c'est un grand contrebassiste qui a vraiment participé à toute l'histoire du jazz, y compris avec tous les courants les plus innovants. C'est-à-dire, il a joué avec Ornette Coleman, mais il a aussi joué avec tous les musiciens, tous les grands standards. Il est également lui-même compositeur. Et surtout, pour un contrebassiste comme moi, qui ne suis pas extrêmement virtuose, me référer à Charlie Haden, c'est toujours une manière de me dire, ah ben, c'est possible quand même de jouer de la contrebasse, même avec des grands musiciens, parce qu'il a une manière très, très minimaliste de jouer. Et ça permet à un contrebassiste comme moi de me dire qu'on n'est pas obligé de jouer tout le temps la quadruple proche, vous voyez, quand on fait des chorus. Et pour moi, donc, c'est une espèce de recours, Charlie Haden, quand je suis un petit peu. Quand j'écoute des musiciens extrêmement virtuoses, je me dis, ça, c'est pas possible pour moi, j'ai plus qu'à replier la contrebasse et la remettre dans sa housse. Quand j'écoute Charlie Haden, je dis, ah oui, quand même, on peut faire des choses en étant justement la note juste au bon moment et sans avoir besoin d'épater la galerie, quoi. Donc, particulièrement ce duo, alors c'est un duo qu'il a reformé avec. Keith Jarrett vraiment sur le tard, parce qu'ils avaient joué ensemble il y a très longtemps, et puis en quartet, il y avait une quartet avec Joe Iron Man à l'époque, dans les années 70-80, et là en fait Paul Motion, et ensuite Keith Jarrett a fait vraiment son grand trio avec Gary Peacock et Jacques Dejonette pendant des années, et moi ce disque, et peut-être ce titre aussi, Goodbye, me touche beaucoup, parce qu'aujourd'hui Charlie Haden n'est plus là, et malheureusement Keith Jarrett aujourd'hui a été atteint il a subi deux AVC, et il a une main gauche qui ne peut plus jouer, et en fait il est totalement aujourd'hui incapable de se produire sur scène, donc c'est très touchant d'avoir cette espèce de dernier témoignage d'une grande histoire du piano et du jazz. Et moi, je pense, j'ai vu sur YouTube une interview de Keith Jarrett par un musicien américain qui interviewe un peu tout le monde et qui est très très passionné, qui est guitariste, je crois, à la base. Il s'appelle Rick Beato, et sur YouTube, on peut voir cette interview extrêmement bouleversant de voir Kejaret très diminué, qui arrive quand même à jouer avec sa main droite sur le clavier et qui, à qui Rick Beato fait entendre des chorus ou même des pianos solos de Kejaret, notamment un thème de Miles Davis, encore lui, ce thème s'appelle Solar, et Kejaret part sur des improvisations absolument magnifiques, et on voit que il acquiesce presque du regard et en hochant la tête, en se réécoutant. Il y a quelque chose d'extrêmement bouleversant de voir ce grand, grand pianiste qui aujourd'hui ne peut plus jouer.
Après cette évocation notamment du parcours de Charlie Haddon et de son impact auprès de vous, notamment Jacques, je vais à nouveau rebondir et évoquer Charlie Haddon avec son orchestre, le Liberation Music Orchestra.
Oui.
Alors, il y a eu une première mouture au début des années 70 où l'album, alors il était en associé à la pianiste Carla Bley.
Carla Bley,
et,
oui.
Et à cette époque, ils étaient. C'est vrai que dans la sphère du jazz, il y avait aussi cette dimension politique. Il y avait quand même un engagement, une mobilisation au sujet des inégalités, des minorités, et notamment avec son orchestre, Charlie Haddon. Lui, il aimait beaucoup reprendre des chants révolutionnaires, notamment d'Amérique du Sud.
Et la guerre d'Espagne.
Et la guerre d'Espagne, exactement. Et, oui. Et voilà, du coup, il y a... Alors là, j'ai choisi un extrait d'une autre... Alors là, on fait un bond assez conséquent. On est en 2004, je crois. Et c'est une autre version de ce même orchestre. Et on va écouter de suite cette reprise d'un thème signé David Bowie, Pat Metheny. Alors, un thème qu'ils avaient composé, écrit pour un film paru... Sorti dans les années 80, en 85 même, qui s'appelait Le jeu du faucon, bon, moi, que je ne connais pas particulièrement, un film d'espionnage réalisé par un certain John Schlesinger. Mais en tout cas, le thème est d'une beauté absolue. Et voilà, ça c'est la relecture effectuée par Charlie Haden et ses acolytes.
This is not America, donc de Charlie Haden. Donc d'écouter Charlie Haden et son Liberation Music Orchestra, l'album s'appelle Not In Our Name et on vient d'écouter donc This Is Not America.
Du coup, eh bien, on poursuit avec une association, là j'ai évoqué Charlie Haden, Carla Bley, et là autre association assez fascinante, enfin tout aussi fascinante même, entre Charlie Mingus, autre éminent grand contrebassiste et aussi musicien, également un des plus engagés aussi, et qui là s'est associé avec la chanteuse plutôt d'obédience folk, dirons-nous, Joni Mitchell.
Alors en réalité, c'est plutôt un hommage de Joni Mitchell à Mingus. Je crois que Mingus oui. était décédé à ce moment-là.
Alors, pas vraiment.
Pas vraiment.
En fait, alors, je mentionne un article fort intéressant sur cette session, cette association qui est parue dans le Jazz Magazine de septembre et qui justement évoque la rencontre entre eux deux. Et en fait, ils se sont rencontrés quelques mois avant qu'ils décèdent.
Ah d'accord, alors, mais en effet, il ne participe pas au disque.
Non, mais Mingus était déjà très diminué, je pense qu'il il circulait dans un fauteuil roulant.
Et d'ailleurs, il y a une peinture de Joni Mitchell, qui est peintre aussi, qui représente Mingus de dos dans son fauteuil roulant, qui est au dos de l'album, j'avais le vinyle à l'époque.
Oui. Voilà, alors voulez-vous nous dire quelques mots sur cet album
C'est un disque hommage effectivement à Mingus, qui est un grand contrebassiste, un grand compositeur et grand musicien de jazz, comme on l'a dit, très engagé. Et ce sont des compositions de John Mitchell, mais il y a aussi certains thèmes de Mingus qui sont dans ce disque. Et moi particulièrement, il y a un thème de Mingus que j'aime beaucoup, qui est Goodbye Pork Pie Hat, et là il y a une introduction qui est magistrale d'un autre bassiste extrêmement influent aussi, beaucoup plus tard, qui est Jaco Pastorius, qui était le bassiste aussi de Weather Report, comme on sait. Et là il y a une introduction à la basse qui est magnifique, et voilà, puis il y a la voix de Joni Mitchell, et puis il y a les claviers de Herbie Hancock, enfin il y a Wayne Shorter qui passe par là aussi, enfin donc c'est un disque absolument indispensable. Sellers and chitlins, when Lester took him a wife, arm in arm went black and white, and some saw red, and drove them from their hotel bed. Love is never easy, it's short of the hope we happiness, bright and sweet. Love is never easy street. Now we are black and white, embracing out in the lunatic New York night. It's very unlikely we'll be driven out of town or be hung in a tree. That's unlikely tonight. Summer serenade of taxi horns and fun arcades, where right or wrong, under neon, every feeling goes on. For you and me, the sidewalk is a history book and a circus, dangerous clowns balancing dreadful and wonderful perceptions they have been handed day by day, generations on down. On the music midnight.
so the sidewalk leads us with music to two little dancers dancing outside a black bar. There's a sign up on the awning. It says pork pie hat bar. Babies dancing tonight.
On vient donc d'écouter l'album en duo de Joni Mitchell et de Charlie Mingus avec le morceau Goodbye Pork Hat.
Oui, bah, Jaco Pastorius, oui, en effet, bassiste, comme vous disiez, les plus influents, les plus innovants, qui a eu, comment dire, qui a eu un destin assez tragique, parce oui. qu'on parle aussi un peu de tragédie dans, en évoquant les uns et les autres, mais en fait, Jaco Pastorius, je crois qu'après une altercation à la sortie d'un bar, il s'est trouvé dans le coma et je crois qu'il est décédé ouais. Suite à...
Ah, il
à
est mort dans le caniveau, quoi. C'est
oui, terrible, exactement, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais en effet, Jaco Pastorius, aujourd'hui, tout bassiste ne peut pas y échapper. Et d'ailleurs, bon, eh ben, moi je vais en contrepartie évoquer son grand orchestre à ce Jaco, qui s'appelait oui. le Word of Mouth, un big band qu'il a mis en place à la fin des années 70, début 80 même, et où il était aussi assez féru d'un instrument qu'on appelle le steel drum.
Le steel band,
oui. Ou le steel pan aussi, ça se dit. En fait, oui. c'est une percussion métallique en provenance de
des Caraïbes.
Voilà, de Trinité, ouais. Dans la mer des Caraïbes. Et là, du coup, bah, on va écouter un extrait avec ce grand orchestre et cet instrument tout aussi fascinant.
Le morceau s'appelle Good Morning, Hania. D'écouter Jaco Pastorius, Holiday for Pans, avec Good Morning Hania.
Eh bien, le temps passe vite et du coup, la fin d'émission approche. On va quitter la sphère du jazz pour aller, plutôt dans les terres algériennes, qui vous est très chère, Jacques.
Oui,
avec
sûr,
un choix que vous avez fait évidemment et que je vais vous laisser introduire.
Oui, en fait, évidemment, moi je suis né à Alger, comme on sait peut-être. J'ai une famille qui a été associée beaucoup à cette histoire depuis plusieurs générations, une histoire commune entre la France et l'Algérie. Et c'est vrai qu'il y a un chanteur qui a un peu représenté cette nostalgie à partir de l'indépendance de ce côté-ci de la Méditerranée, c'est Enrico Macias, dont j'avoue, j'étais pas un fan absolu. Bon, j'écoutais ça me semblait un peu folklorique, un peu nostalgérique, si vous voulez. Mais le temps aidant, je trouve, moi j'ai une espèce de tendresse maintenant pour ce chanteur, parce que bon, il plaide toujours pour la paix, pour la fraternité. Et il y a une chanson très belle, je trouve, qu'on va écouter, qui s'appelle Les Oranges Amères, dont la musique est de Art Mengo, et qui est très à la fois nostalgique, mais très évocatrice. Et c'est une chanson qui a du parfum, on peut dire, c'est-à-dire qu'il évoque ces oranges, ce parfum de fleurs d'oranger. Moi, j'ai la chance d'habiter dans le Midi, et j'ai un petit jardin dans lequel j'ai un oranger. Et à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, il y a des fleurs d'oranger qui sortent et ça a un parfum absolument extraordinaire que tous les Méditerranéens connaissent.
Ok.
C'était un peu l'idole de cette période, Enrico Macias, comme on a pu avoir les idoles des yéyés, ce genre de choses.
Non, idole, je pense pas. Je pense qu'il a accompagné, si vous voulez, le rapatriement de beaucoup de ceux qui ont dû quitter l'Algérie. Et donc, c'était quelqu'un qu'on écoutait un peu dans ma famille, mais pas plus que ça, je vais dire, mais parce qu'il y avait aussi un peu ce côté entre guillemets folklorisant, c'est pas péjoratif, mais je trouve que là, particulièrement cette chanson, alors vraiment, je trouve que tout se met en place, quoi, la musique, les paroles, les évocations, et donc je tenais à ce qu'on puisse l'écouter, parce que c'est vrai qu'il peut être décrié sur d'autres chapitres, Enrico Macias, surtout actuellement avec l'actualité internationale, mais moi je lui garde une tendresse, notamment avec cette chanson.
Eh bien, on écoute donc Orange Amère, issu de l'album qui porte ce même nom, Enrico Macias.
Il est 15h, Paris s'endort. Et par les rues des champs déserts, toute la ville perd le nord dans une sieste à ciel ouvert. Avec le cœur qui tambourine, je revois derrière mes paupières le chemin blanc vers les collines et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je retrouve le rouge de ma flamme, et sous le voile d'une moustiquaire, le visage en sueur d'une femme, ma femme d'aujourd'hui et d'hier. La glu les noyaux d'abricot, le bruit du thé dans les théières, la danse de nuit des lampadaires, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères. Je reprends le premier chewing-gum d'un Américain sur son tank, l'école, l'encre bleue et les gommes, les mercredis soirs de pétanque. Et je retrouve au fond de moi le chant léger des lavandières, la blancheur des draps d'autrefois, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères.
En écho à Enrico Macias, j'ai opté et choisi un artiste aussi algérien qui se nomme Lili Boniche.
Ah, Lili Boniche, bien sûr.
Ouais, ça vous parle?
Oui, oui, bien sûr. Je connais, vous savez, c'est ce qu'on appelle la musique arabo-andalouse.
Oui, là, exactement.
C'était un musicien qui jouait dans des orchestres qui mêlaient à la fois des musulmans, des juifs. Vous voyez, c'était l'Algérie telle que certains ont pu la rêver, c'est-à-dire avec une espèce de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. En tout cas, sur les scènes musicales, ça se produisait, ça s'est passé. Et plus récemment, il y a eu la reconstitution d'un orchestre. Ça donnait un film, d'ailleurs, qui s'appelait El Gusto, où il y avait justement toute cette musique-là, avec des intonations évidemment très orientales. Les paroles étaient moitié français, moitié judéo-berbère. Vous voyez, il y avait quelque chose arabe, enfin, il y avait quelque chose fusionnel dans toutes ces composantes. Ce qu'a été la population de l'Algérie. Et donc, oui, ça, là aussi, il y a une espèce d'effet nostalgie de cette Algérie qui aurait pu être et qui n'a pas été et qui n'est pas et qui le sera de moins en moins, si j'en juge par les développements récents de la l'évolution de ce pays.
Oui, oui. Et pour revenir à El Gusto, oui, nous détenons d'ailleurs dans les bibliothèques à la fois le film et la bande originale qui est incroyable aussi. Et voilà, donc Lili Boniche, oui, en effet, vous l'avez tout à fait bien introduit. Donc, qui était, d'après ce que j'ai compris, une vedette vraiment incontestée, hein, de la variété algéroise, dirons-nous.
Tout à fait, oui.
Alors moi, je l'ai découvert à la fin des années 90, parce qu'il a été produit, il est revenu sur le devant de la scène, il avait quitté le domaine musical pour s'affairer à d'autres activités. Oui. Et il est revenu avec un album produit par Bill Laswell. Moi, je suis
Bill Laswell,
un grand amateur de ses projets. Et du coup, voilà. C'est paru d'ailleurs sur un label relativement peu connu. Hein, c'est chez APC. Et APC, en fait, c'était détenu, ou peut-être ça existe encore, par un grand couturier qui s'appelle Jean Twitou. Et donc, ils s'étaient associés tous ensemble là, avec Lili Boniche pour faire cet album. Carrément. Et du coup, il y avait eu même un concert, je me souviens, à l'Élysée-Montmartre, à Paris. Et j'avais été convié pour y assister. Et voilà, du coup, c'est comme ça, pour ma part, comment j'ai découvert Lili Boniche.
Eh bien, donc on va écouter cette star algérienne, algéroise, comme tu disais, Jérôme, pour conclure l'émission. Et évidemment, la musique donc algérienne fera, en tout cas l'Algérie, j'imagine, fera partie de la discussion qui nous animera pour conclure et rappeler votre présence, Jacques Ablois, durant les rendez-vous de l'histoire. Donc ce sera samedi 11 octobre à la médiathèque Maurice Genevoix, en ton château, Jérôme, pourrait-on dire.
Oui.
Rendez-vous à 14h30 donc pour cette table ronde, cet échange. On parlera évidemment de votre œuvre de BD. On a parlé musique avec vous, Jacques, mais on parlera donc là plus largement de BD et de votre œuvre, notamment évidemment donc des Carnets d'Orient, sur cette table ronde qui vous invite, Jacques.
Et oui, surtout à propos du dernier album publié qui s'appelle Orient perdu, donc toute une histoire là aussi. Vous voyez le titre. Déjà dit beaucoup de choses, ouais. Orient perdu au pluriel.
On aura donc l'occasion d'en reparler. On vous invite nombreux et nombreuses à venir donc rencontrer Jacques Ferrandez à la médiathèque Maurice Genevoix. Donc ce sera samedi 11 octobre à 14h30. Voilà pour les informations. On se quitte donc en musique comme d'habitude dans Mélodie Souterraine. On se retrouve le mois prochain, mais Jérôme, hein, avec une émission classique.
Ouais.
Voilà.
Et merci beaucoup Jacques pour votre participation
merci beaucoup,
ces échanges fort intéressants et fructueux.
On se quitte en musique avec Lily Bonich. Bonne journée, bonne écoute de Studio ZEF.
Quand je t'ai vu pour la première fois, ma kunchi d'araf, que tu étais pour moi. Nos regards se sont croisés, on s'est compris. William Samel, la fière Wotser Dorlé. Je te pardonne, mon cœur est tout à toi. Alash Metz Habilish, pourquoi tu ne m'aimes pas? Potselek la Habilash, Omri rien qu'avec toi. Salam Metz Femenish, Hanni aime-moi. Alash Metz Habilish, pourquoi tu ne m'aimes pas? خليت لي قلبي nuit et jour je pense يا دو عيني pourquoi cette souffrance واجبني يكفيني من هذا السilence اهضر لي je veux entendre ta voix علاش ما تحبينيش pourquoi tu ne m'aimes pas قلت لك نحب نموت يا لا لا rien qu'avec toi صار ما تفهمنيش حني أمروا علاش ما تحبينيش pourquoi tu m'aimes pas tes manières et tes yeux me disent que tu m'aimes خافش مني نعرف اللي تحبيني كمان شيري كومبرامواه بركات من هذا الكلام هبلتيني وقتلتيني بالتخمام ماتنو اللي ضحكت لي مون كور اي طون جوا علاش ما تحبينيش كوا تو ميم با قلت لك نحب نعيش يا لا لا غيان كافيك توا خساره ما تفهمنيش حني ام موا علاش ما تحبينيش pourquoi tu ne m'aimes